et on démarre tout de suite avec le mot de la semaine, le bilan. J'avais envie qu'on prenne un tout petit peu de recul, qu'on essaye de se détacher un peu des déclarations quotidiennes et souvent contradictoires de Trump, des déclarations belliqueuses de l'Iran, pour faire un premier bilan de ces semaines de guerre et de cette drôle de trêve. L'économie mondiale est-elle fortement impactée? Est-ce que vous êtes inquiet, Léa, sur la croissance ou sur l'inflation?
Les deux, mais pas avec la même temporalité. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est vraiment le choc d'inflation qui se diffuse. Il est déjà là, mais on est sur une inflation qui est affectée, entre guillemets, seulement par la hausse des prix de l'énergie. Donc ça, c'est le premier effet, l'effet qu'on attend. Maintenant, si ce conflit perdure, en fait, c'est la deuxième jambe qui va arriver. Et donc, ça va être les transmissions en fait assez classiques, l'inflation, les marges des entreprises, la confiance des ménages, et donc la croissance prendra le relais. Et là, ça va vraiment dépendre, alors on a bien sûr le temps du conflit, mais aussi, est-ce qu'on a des capacités de production qui sont détruites, comment le conflit va évoluer. Et ça, ça va vraiment être l'ampleur et l'impact que ça va avoir sur la croissance. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, le hausse de l'inflation, elle est faite, elle est transmise. Les chocs de confiance, il est déjà là. Il y a un indicateur assez intéressant.
Oui, c'est pour ça, parce que vous dites il y a un séquencement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, presque, le choc de confiance, il vient même avant l'inflation. Puisque pour l'instant, on est plutôt, je reprends toujours la terminologie de Jean-Marc Daniel, mais on est plutôt dans une hausse des prix, on n'est pas encore dans de l'inflation.
Oui, on est plutôt dans une hausse des prix, mais pas dans l'inflation. Par contre, le biais inflation-croissance, il passe par la confiance et on est dedans.
Ouais. Donc le choc de confiance,
il est là. Déjà. Très différencié sont les économies. Hein. Le chiffre du T1 américain sur la croissance, il est très bon.
Ouais, on va en parler.
Mais les US de côté, il y a les effets. Il y a zone euro, on l'a déjà vu. Alors, il y a quelques effets un peu transitoires. Mais en gros, la zone euro, ce qu'on espérait pour cette année, c'était que la hausse de confiance qu'on avait depuis un an prendrait forme et rentraînerait la demande. Or là, ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est qu'on a une hausse de l'incertitude qui est revenue au niveau d'avril de l'année dernière, au moment où Trump a mis en place ses tarifs. Donc tout ce qu'on avait gagné cette année en termes de confiance pour les ménages est remis à plat. Donc là, en gros, c'est la situation aujourd'hui. Les marges des entreprises tiennent encore, la conso tient encore. Pas partout, mais on n'est pas sur quelque chose qui est en train de céder.
D'accord.
En gros, le choc d'inflation, il arrive dès le premier trimestre. Le choc de confiance, il arrive entre le T1 et le T2. Donc, deuxième trimestre, ça va être l'inflation. Deuxième semestre, ça va être la croissance.
Intéressant, parce que moi, j'avais plutôt le sentiment qu'on avait d'abord le choc de confiance. Enfin, je suis beaucoup plus inquiet par l'impact sur la croissance que par l'impact sur l'inflation. Wilfried ?
Ouais, moi, je partage cet ordre de priorité, en fait. Effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de choc de confiance est important. Hein, quand on regarde, effectivement, les indicateurs de confiance, quasiment dans toutes les zones géographiques, d'ailleurs, ils ont pris quand même une baisse assez nette. On voit quand même qu'il y a une grande fragmentation de l'impact en fonction de l'ouverture des zones sur justement ce choc au Moyen-Orient. L'impact, il est très fort en Asie. On voit déjà des restrictions, on voit déjà des pour reprendre ce que disait Léa, on voit déjà des destructions de capacités de production dans certains pays asiatiques.
Modi a demandé à ses habitants de faire du télétravail pour ne pas utiliser de carburant.
Exactement, on a la même chose qui se déroule en Indonésie, en Thaïlande. Ah oui. Donc ça, c'est effectivement un élément important parce que c'est une zone très importante pour
donc
la croissance mondiale.
Pour vous, c'est la zone la plus touchée. On peut chiffrer ? C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est 0,5% de croissance en moins ? C'est 1%
alors,
de croissance ?
Si on parle de l'impact de la croissance au niveau mondial, sur cette zone-là, on va probablement être effectivement autour de 0,5. En revanche, l'impact sur la zone elle-même va être beaucoup plus important.
Okay.
Et ça, on a du mal aujourd'hui à le mesurer. Ce qu'on voit quand même, c'est que la deuxième zone la plus impactée, évidemment, c'est l'Europe, et en particulier l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'espoir sur une relance de l'activité.
C'était la locomotive de la croissance pour 2026.
Voilà, exactement. C'était le fameux plan MERS qui allait tout changer. Et on voit qu'au fur et à mesure, l'Allemagne passe de prévisions de croissance autour légèrement supérieure à 1%, à 0,5, voire en dessous. Et donc, on n'a plus cette locomotive-là. En fait, la seule zone qui résiste encore aujourd'hui, c'est la zone Amérique, en particulier les États-Unis, qui font preuve quand même, et je tenais à le souligner, d'une quand même
soulignez-le. Si vous teniez à le faire, il faut le faire.
Mais oui, il faut le faire parce que de temps en temps.
Je tenais à le souligner.
Mais oui, je tenais à le souligner. En fait, cette souplesse et cette adaptabilité absolument considérable de l'économie américaine, qui moi me surprend. Ben,
moi aussi.
En permanence.
Elle me surprend, elle me fascine.
Exactement. Et donc, ce qu'on voit, et d'ailleurs, ce qu'a souligné Kevin Warsh lorsqu'il avait été auditionné à la.
Le futur patron de la.
Pour la Fed.
Banque centrale.
C'est en particulier une augmentation de la productivité américaine qui, dans les 5 dernières années, est 2 fois supérieure à ce qu'elle a été dans les années 2010. Donc c'est, en termes de changement, de rythme de croissance, de potentiel de croissance, c'est considérable. Donc évidemment, il est amoindri par le choc qu'on a au Moyen-Orient, mais grâce à ses qualités intrinsèques, et on parle de la croissance précédente, donc en fait, le choc d'IA, il n'est même pas encore là, en fait. Hein. On l'a même pas encore intégré dans les chiffres sur la productivité. Donc ça, c'est quand même très impressionnant. C'est, pour moi, le motif d'espoir sur 2026, c'est que l'Amérique continue à tenir, et donc, aussi d'un point de vue marché, va continuer probablement à être la locomotive que tout le monde attend.
Céline, vous nous disiez avant l'émission, vous, la zone qui vous intéresse beaucoup, que vous connaissez bien, hein, c'est les pays émergents, et là, vous nous dites, ça fait mal.
Tout à fait, ça fait mal. Pour rebondir effectivement sur le cas de l'Asie, c'est vrai qu'on a une problématique très forte pour la Malaisie, l'Indonésie, mais surtout pour l'Inde, qui était vue comme la future locomotive de l'économie mondiale. Et chouchou donc là, on a et chouchou des investisseurs. Et donc on a un coup d'arrêt assez net qui vient de la problématique inflationniste, pour laquelle je m'inquiéterais peut-être un petit peu plus. Que ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on parlait
peut-être
de productivité tout à l'heure, mais j'ai peur que nous surestimions l'impact de l'intelligence artificielle, notamment parce qu'il y a des débats, je crois, sur le calcul de la productivité entre la productivité horaire et la productivité par travailleur, l'augmentation de la productivité n'étant pas la même en fonction de la façon dont on calcule. Et dans un environnement où on n'est pas forcément assis à son poste tous les jours, le calcul peut être remis en cause.
Donc, vous, mais vous inquiète,
donc je serais plus inquiète parce que, comme on le disait avant l'émission également, on va quand même dans un monde, vers un monde dans lequel on doit produire localement, dans lequel on veut plus avoir un monde global, dans lequel les personnes bougent moins également. Et on est confronté, dans ce cas-là, à une optimisation de la productivité qui n'est plus la même que celle qu'on a pu vivre, nous, au cours des 40 dernières années.
Léa, vous le disiez, et Wilfried le reprenait aussi, le développait, les États-Unis, c'est quand même super étonnant, quoi.
Alors, oui et non. En fait, c'est ce qu'on a appris de 2025 qu'on doit mettre sur 2026. Le cycle macro qu'on a aujourd'hui, c'est plus un cycle traditionnel. C'est un cycle dans lequel l'IA amène tout. Et on l'a bien vu, hein, les chiffres du PIB américain sont amenés par de l'investissement en IA. C'est un chiffre exceptionnel, mais qui crée aussi des nouvelles choses qui sont moins répondantes au cycle. Aujourd'hui, l'emploi américain, il a plus besoin d'être autour de 100 à 150 000 créations d'emplois par mois pour stimuler l'économie. Les dernières estimations montrent que entre 10 000 et 50 000 créations d'emplois, elles sont suffisantes. Sur cette histoire de productivité, c'est le vrai sujet. Si on fait un peu de macro pur, ce qu'on dit, c'est que la croissance potentielle, elle dépend du facteur capital, du facteur travail et de la productivité. Productivité, on ne sait pas comment la mesurer, on sait qu'elle va augmenter. Facteur capital, on sait qu'il va augmenter. Franchement, le facteur travail, on n'en sait rien. Est-ce que les créations d'emplois, est-ce que l'emploi lié à l'IA va faire mettre de côté une part significative des travailleurs? Plus de 40% des travailleurs vont être assujettis aux contraintes d'IA. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là? Et on voit bien aujourd'hui, la croissance américaine, elle repose sur des piliers qui ne sont pas des piliers traditionnels. Ça ne va pas être la conso, ça va être l'effet richesse lié à l'IA, ça va être ses investissements liés à l'IA. Alors bien sûr, cette bulle-là, elle va continuer. Mais aujourd'hui, ce qui fait la croissance américaine et ce qui fait sa force, la rend aussi...
L'investissement dans l'IA, c'est aussi l'effet richesse, non ?
C'est la combinaison de tout ça. C'est l'effet richesse, l'investissement en IA, qui est moins soumis à des contraintes de sensibilité au taux d'intérêt. Donc tout ça, en fait, met les États-Unis à part dans cette dynamique. Alors, par contre, l'effet, de toute façon, les États-Unis ne répondaient pas tout de suite au choc iran. Ils sont exportateurs nets, on en a bien parlé. Nous, dans nos modèles, c'est
ils en profitent au niveau macro.
Positif,
bah oui, c'est ça.
Fait.
Alors, même si sur le pouvoir d'achat des ménages, il y a quand même énormément de pression, mais le pays lui-même, enfin, les exportations de carburant ont augmenté de 20%. Enfin,
exactement.
Tout le monde vient se servir chez eux.
Alors, c'est pour ça que vous mettiez, j'ai mis le nez dans les modèles. Les États-Unis, c'est vraiment le modèle à part. On a fait un choc mondial dans lequel les pays interagissent les uns les autres via des variables de taux d'intérêt. Les États-Unis sont seuls dans lequel, à l'instant T, vous avez un supplément de croissance créé par le conflit Iran. T plus 2, T plus 3, T plus 4 après le choc, c'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que l'inflation prend le pas. Et c'est pour ça, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut être beaucoup plus inquiet sur le choc de croissance que ce conflit pourrait créer. Mais par contre, il y a quand même un choc d'infla d'abord et ensuite le choc de croissance. L'ampleur, on a encore du mal à la mesurer.
On va en reparler. Et Eric, vous parlez beaucoup à des chefs d'entreprise, c'est votre métier, hein, d'investir dans les entreprises. Le ressenti aujourd'hui, c'est l'inquiétude par rapport à l'incertitude ?
Le ressenti premier, c'est l'incertitude, le ralentissement économique.
Vraiment, il y a ce sentiment déjà chez les entrepreneurs.
C'est ça, absolument. Okay. On a l'impression que sur les débouchés, il y a des inquiétudes. Donc, il y a les entrants, évidemment. Hein, l'augmentation de l'énergie, des plastiques, des engrais. Donc, tout ça, ils le voient bien. Ils ont quand même eu l'habitude de jongler avec ça. Ouais. Hein, ils ont vu ça il n'y a pas très longtemps, avec le Covid. Donc, ils savent
comment réagir. L'Ukraine.
Les disruptions aussi de chaînes d'approvisionnement, tout ça, ils commencent à comprendre. Mais là, on sent que le ralentissement économique, il est plus sérieux et il commence à être inquiétant en Europe, en tout cas, on le sent. Et ça vient de l'Allemagne, qui est quand même un gros trou. Donc, c'est ce que j'entends, moi, de mon côté.
Wilfried, je voudrais revenir, puisqu'il y a le sommet Trump-Xi Jinping. On était tous, hein, il y a quelques années, à dire en 2024-2025 la Chine va rattraper les États-Unis. Les chiffres sont pas du tout là.
Hein. Non, c'est pas du tout.
On a quoi, 30%? Enfin, j'ai vu que sur le PIB par habitant, on était à 20 ou 30% de décalage. Et sur le PIB lui-même, on est encore à 20 ou 30% de décalage.
Ah, tout à fait, ouais.
C'est frappant, quoi.
En fait, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, on a un gros décalage de tendance, hein. Mais qui est lié aussi, il y a des effets de taux de change, hein, sur le fait que le yuan a quand même été très largement sous-évalué. Alors, il est en train de rattraper.
D'accord.
Mais c'est vrai que on imaginait la Chine avoir cette trajectoire de numéro un mondial assez rapide. Et en fait, le Covid a tout bouleversé. Ouais. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de l'augmentation de la productivité aux États-Unis, on n'a pas du tout eu ça en Chine, en tout cas dans ces mêmes proportions.
Covid, crise immobilière.
Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation de la productivité aux États-Unis, elle est liée largement à la productivité dans les services aux entreprises, et pas tellement dans la productivité manufacturière. Et c'est très dur de faire croître la productivité manufacturière, surtout comme quand vous êtes la Chine et que vous investissez tellement qu'en fait, marginalement, votre production par unité d'investissement, elle commence à décroître. Et donc la Chine commence à payer ça, le fait d'être dans un modèle, en fait, profondément déflationniste quand même si là, elle profite du choc pour sortir de ça. Et donc la Chine aujourd'hui, qui est une économie qui en fait dépend beaucoup aussi moins que l'Inde évidemment, mais dépend quand même pas mal du Moyen-Orient,
et de ses exportations.
Et de ses exportations. Et donc quand vous avez des incertitudes sur les chaînes de valeur mondiales, la Chine prend également ça. Et donc c'est pour ça, ça peut être, soyons aussi un peu positifs, ça peut être une force de stabilisation dans ce conflit-là. La Chine n'a pas du tout intérêt à ce que ça dure trop longtemps.
Alors souvent, surtout dans les médias européens qui adorent détester les États-Unis et donc qui disent bon la Chine à la fin c'est toujours la Chine qui gagne. Aujourd'hui, quand Xi Jinping et Trump se rencontrent, c'est quand même Trump qui a la main haute, non ?
Alors non, moi je suis pas du tout d'accord avec le constat que vous offrez sur la Chine. Je pense qu'on fait vraiment un amalgame entre la situation conjoncturelle chinoise et la situation structurelle.
Ouais.
À long terme, aujourd'hui, quand on regarde la part de recherche dans les secteurs clés, que ce soit lié à la robotique, la génomique ou autre, la Chine a surpassé en termes de chercheurs et de publications.
Ça, on est tous d'accord.
Scientifique.
Domination militaire, on est d'accord. Domination technologique, elle est très forte.
Et puis aujourd'hui aussi, on voit bien la transition énergétique qui est en cours va passer par les chaînes de production chinoises.
Je comprends.
Les questions.
Domination industrielle, je suis d'accord. Oui, mais d'un autre côté, quand on voit par exemple les budgets chinois, aujourd'hui, vous regardez l'évolution des budgets chinois dans l'éducation, dans l'aide à la consommation, dans les plans de relance, tout a été basculé vers l'armement, la technologie.
Oui.
Bon, c'est un choix peut-être d'avenir,
c'est
vous avez raison.
Alors,
peut-être que dans 10 ans, ils vont y arriver, mais
c'est-à-dire
en attendant.
Fait le lien par rapport à ce que vous dites sur le sommet, en réalité, on a l'impression qu'on attend quelque chose du sommet, mais le sommet a été déjà bouclé il y a quelques semaines avec le plan quinquennal voté en Chine.
Oui, c'est ça.
Trump ne vient avec absolument aucun outil de négociation. La Chine a voté, et c'est ancré dans la loi, le plan à 5 ans. Trump a vouloir négocier.
Donc vous dites l'image qu'on a, moi j'ai quand même l'impression que pour l'instant c'est États-Unis 1, Chine 0. Bah,
les États-Unis restent aujourd'hui la puissance dominante, mais en fait on est dans une décennie et qui va encore durer dans laquelle on cherche les combats de puissance et aujourd'hui la Chine se positionne quand même assez bien à moyen terme.
Pour l'avenir.
Et puis, le
conflit enfin, pour l'avenir, ils auront moins d'habitants. S'ils ont des habitants qui sont de plus en plus pauvres, ça leur fera une belle jambe d'avoir...
Oui, mais là, on voit bien qui est aujourd'hui le gagnant de cette guerre. Aujourd'hui, c'est la Chine. Je reviendrai dans
Je ne suis pas du tout d'accord. Comment vous pouvez dire ça? Pourquoi la Chine est gagnante de cette guerre?
Parce qu'aujourd'hui... Bon, alors, je vais revenir
allez-y,
sur mon
allez-y, flop. Allez-y, c'est pas grave, on fait sauter les autres sujets.
Très bien. Le sondage annuel d'ISEAS, donc le think tank de référence de Singapour et d'Asie, montre qu'aujourd'hui, 52% des pays d'Asie préfèrent s'aligner sur la Chine que sur les États-Unis. Il y a vraiment la question où on disait comment la Chine gère sa région, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Aujourd'hui, le fait que le gendarme américain, le créateur de règles, ne respecte plus les règles, en fait, englobe tout le bloc
indo-pacifique. Mais là, vous parlez stratégique. J'ai envie de vous dire, le quotidien, c'est d'avoir quelque chose à bouffer.
Alors, si on va faire du conjoncturel, effectivement, la Chine est dans
du conjoncturel, mais le conjoncturel devient structurel quand vous avez rien à bouffer.
Alors, je vous rajoute une couche supplémentaire. Dans nos indicateurs, nous, on fait du risque pays. On a un signal de crise sur la Chine l'année prochaine.
Ah ben voilà.
Mais...
Eh ben voilà, on y arrive. On y arrive. Voilà. Léa, on y arrive.
Je trouve qu'il y a un peu trop, il y a autant de China bashing que de US bashing. Il faut peut-être équilibrer.
Allez, moi j'aime bien le China bashing.